Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous revoici ensemble dans nos lectures en liberté. Je vous propose de continuer cette semaine de balades poétiques avec quelques pages extraites d'une œuvre de Jean-Claude Pirotte, « Il est minuit depuis toujours ». Voici la pluie de nouveau, l'abjecte aurore humide et grise, à l'iris glauque. Et ce jour, se lever de bonne heure, ah, malheur! Et ce jour d'après Pâques, où l'on imagine malgré tout des départs blancs parmi les rumeurs d'estacades de longs courriers aux mâts métaphysiques, ce jour où rien n'est né, ni rien d'allègre ne surgit dans la lumière inattendue, ce jour, ma sœur, ô ma morte des anciens jours mémorables, ce jour de cloches étouffées et de moites odeurs de ballots gorgés d'eau saumâtre sous le croassement du corbeau dans les cours des cartonneries. Et l'âme, ce que je nomme l'âme, sous le charme fatal des chambres léthargiques et les mots confondus dans l'exil d'une absence lépreuse et la magie noire du grand carreau de ciel à vert dormant qu'un seul oiseau s'épuise à parcourir comme s'il imitait le bourdon, le cafard. Voici l'aveuglement et le ressassement. Et dans l'air de gravier qui lacère l'oreille, s'étrangle à nouveau le dérisoire écho des transistors et le gargouillis gras des éviers bronchiteux, les flocs sourds des remuages des boueurs et le métronome chuintant des déambulations du cancer de l'étage. Tout ce néant sonore qu'encore il faudra que digère le désespoir. À la dame perdue. Quelquefois, rarement. Il se fait que le soleil brille et nous sommes là comme si ce devait être éternel d'être là, simplement dans la cuisine fraîche, avec le balancement vert sur le bleu de la vitre bien lavée, des peupliers frémissants par-dessus la tôle des hangars. Le bleu juste obliquement traversé par un fil électrique. Nous sommes là, nous sommes vraiment là, peut-être, en vérité, je le répète, est-ce possible? Nous pesons de notre poids essentiel ici même où j'écris et que rauque et violente règne la voix de Bessie Smith. À l'ami disparu. Avec ton air d'avoir taillé ta vigne, ton sourire aussi rond qu'un ventre d'étourneau, et ta démarche de nuages décoratifs et matinal avec ta voix de haute mer, et ton menton plissé comme un fruit malicieux, avec l'éludion farouche et rieur de ton regard et le rêve lacté de tes ruses quotidiennes avec ton domaine lointain de fêtes enfantines, de feuilles mortes et de charades lunaires. Coulent nos années au timbre voilé de violoncelle. Récits incertains. L'homme de Vouziers à André d'Autel. Je suis né, dit le quatragénaire yeux voilés, à la jeune fille cambrée sur son tabouret, je suis né à Vouziers. C'est en France un bourg de France dans le département des Ardennes. Mais ce n'est pas vraiment l'Ardenne. Il y a l'Argonne au sud, la Champagne à l'ouest et derrière, au nord, l'Ardenne. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça. C'est tellement loin. Et vous n'avez jamais été en France. Moi, je l'ai quitté très jeune. Mes parents avaient été tués dans un accident d'automobile. Ces choses arrivent, même à Vouziers. Mon oncle, devenu mon tuteur, m'a recueilli. J'ai vécu avec lui à Rio, ensuite à Albuquerque. Et parfois, il m'emmenait en Allemagne ou en Hollande. Je n'ai jamais revu Vouziers. Mon oncle est mort. En me léguant son affaire d'Albuquerque, je suis peut-être devenu vraiment américain. Peut-être que non pourtant, puisque vous m'aviez pris d'abord pour un étranger. En vous regardant, je me suis senti brusquement étranger à nouveau. Sans doute, je n'avais pas cessé de l'être, mais je l'ignorais. Oui, je vous regarde, reprit le quatragénaire en faisant rouler entre ses paumes son verre de bourbon. « Je vous regarde et voici que je pense à Vouziers. M'expliquerez-vous pourquoi ?»« Votre père, non, votre grand-père, a peut-être combattu par là, vous ne savez pas. Je dois encore avoir à Vouziers des cousins. Je me rappelle un vieux courtier en assurance barbu à qui nous allions souhaiter la bonne année et qui nous servait du porto et des biscuits. » C'est une histoire d'un autre âge. Il habitait une haute maison mal alignée dans la rue principale. Au premier, dans la pièce, il nous recevait. Je m'approchais de la fenêtre et, en écrasant mon nez contre la vitre, j'arrivais à voir en oblique le porche ouvragé de l'église dans un angle inattendu, brouillé par le prisme du verre. Les voussures en demi-cercle des trois tympans se chevauchaient et paraissaient sinuées comme des anguilles. Je tournais le dos à tout le monde, fasciné par le spectacle d'une église ondulant comme une danseuse de foire. On me reprochait mon impolitesse. Plus tard, dans la rue, je respirais très fort l'air froid que le vent avivait, et je traînais un pied dans la rigole afin d'accumuler en la poussant une neige lourde et noircie. Je salissais avec une volupté triste mes bottines du dimanche et ma mère se fâchait. Mon père haussait les épaules et ouvrait en appuyant du coude la porte à tambour de la ville de Rennes, dont le patron était un immense oiseau maigre et voûté qui me faisait peur. On m'apportait d'office une limonade que je n'aimais pas. Je voudrais aujourd'hui boire encore cette limonade aigre comme la bise d'hiver. Longtemps en vous, les choses gardent le silence. Des lieux semblent à jamais perdus, dit encore le quatragénaire. Est-ce que je vous ennuie ? Vouziers ne peut être en effet qu'une bourgade tout à fait improbable, et voici qu'en ce moment, allez comprendre pourquoi dans ce bar aux lumières froides, au lieu de seriner les compliments d'usage à l'oreille de la jeune fille que le hasard charitable vous permet de coudoyer, vous vous mettez à dévider je ne sais quelles images floues d'une ancienne vie pour le moins douteuse et dépourvue du plus minuscule intérêt romanesque. Prenons un autre verre de bourbon, voulez-vous ? À moins que vous ne préfériez un de ces cocktails exotiques dont la confection occuperait le barman languissant. Il se pourrait que je vous apprenne à mon propos des détails insignifiants que j'ignore encore moi-même, car qui peut se vanter, dites-moi, de connaître l'enfant que l'on fut à Vouziers, Ardennes, et qui gravit cependant encore à cette minute même les marches du parvis de l'église Saint-Maurille, alors qu'un nuage matinal projette une ombre lointaine sur les modestes hauteurs indistinctes que l'on devine par l'échappée de la rue Taine. Il y a une heure à peine, cet enfant, je ne le connaissais pas. Son existence m'était aussi fabuleusement étrangère que la comète de 1811. Serait-ce donc à vous que je dois la paternité nouvelle d'un petit garçon qui fronce les sourcils en levant la tête vers le triple portail habité de saints scrupuleux dont les traits sont rongés patiemment par les pluies et les soleils descendus de l'Argonne. À propos d'exotisme, tandis que le barman rythme allègrement le Black Hawk que vous avez commandé, moi je préfère le Bourbon Nature et c'est Old Charter me convient. À propos d'exotisme, répète le quatragénaire dont les yeux passent du marron au vert sombre, ne pensez-vous pas que le nom de Vouziers Ardennes distille un parfum d'ailleurs plus subtil et plus pénétrant que le ciel californien que l'on voit tendu comme un éventail trop léché là-bas, encadré par la grande baie du salon où quelqu'un a oublié sur le velours noir d'un fauteuil un large feutre immaculé. Évidemment, vous ne pouvez pas me répondre. Vous ne savez pas. En somme, je n'attends pas de réponse. Il me plaît que vous ne soyez pas bavarde, même pas attentive. Quelque part, qui sait, dans le Missouri, entre Carthage et Belleville, un hameau de béton gris avec la gare des bus, l'hôtel en faux marbre et les pompes à essence se nomme Vouziers. Les gens du patelin prononcent ainsi « Voudsière ». C'est idiot, pense le district attorney. Un nom pareil, il faudrait le changer. Cependant, si au sortir d'un virage masqué à l'endroit où le chauffeur noir à lunettes solaires ralentit, le petit garçon lit sur la plaque blanche le nom bleu de Vouziers, qu'adviendra-t-il ? Est-ce qu'un long nuage à l'horizon viendra figurer les crêtes rugueuses de l'Argonne et parler à l'enfant des mondes éblouis que révèle en une brève éclaircie dans un crépuscule infiniment cantonal le génie très secret du paysage natal? Vous auriez tort, murmure après un silence le quadragénaire aux yeux obscurcis de me prendre seulement pour un rêveur fumeux, un nostalgique de comptoir. Il est vrai que je ne réussirai pas à définir ce qui, dans notre rencontre, dans les lignes encore enfantines de votre profil, dans le geste contenu que vous avez pour porter le verre à vos lèvres et l'hésitation même de votre bouche à s'entrouvrir avant de boire, je n'arriverai pas à élucider ce qui m'a toujours inspiré cette tendresse et cet apitoiement de la mémoire. Je dois vous paraître un peu fou. Et même passablement gâteux, non, vous êtes trop poli pour en convenir. J'évoquais la charité du hasard, c'est à la vôtre plutôt que je dois la sensation un peu trop douce que me procure cet exercice d'une curiosité égoïste à l'égard d'un passé que, pour tout avouer, je ne suis pas certain de ne pas inventer. Où donc se tient la réalité ? Je suis un piètre philosophe. Et cette question doit vous sembler ridicule, la réalité, la vie réelle, des mots dangereux. Il faudrait, dit le quadragénaire aux yeux baissés, pour que vous ayez une chance de comprendre et que j'aie une chance d'éprouver une quelconque réalité, il faudrait que soudain, sans transition, nous soyons, vous et moi, transportés sur la banquette de moleskine râpée de l'hôtel de Rennes. Et qu'il y ait ce goût de limonade et la fascinante déambulation de l'échassier maigre aux paupières rouges. Et derrière les fenêtres, le passage incertain de quelques ménagères en fichu. Un gamin lançant vers le ciel aux nuages noirs un cri gaufré et qu'il fasse presque soir, novembre. Et j'entendrai le grincement du tambour de l'entrée et le frottement des semelles humides du livreur sur le carrelage déteint, et nous nous tairions, enrobés de cette atmosphère d'évidence. Pardonnez-moi, ajouta le quadragénaire sans un regard pour la jeune fille cambrée sur son tabouret, il faut que je vous quitte.
Que j'aime voir, chère indolente, de ton corps si beau, comme une étoffe vacillante miroiter la peau. sur ta chevelure profonde aux âcres parfums, mer odorante et vagabonde aux flots bleus et bruns, comme un navire qui s'éveille au vent du matin, mon âme rêveuse appareille pour un ciel lointain. Tes yeux où rien ne se révèle de doux ni d'amer sont de bijoux froids où se mêle l'or avec le fer. À te voir marcher en cadence belle d'abandon, on dirait un serpent qui danse au bout d'un bâton. Sous le fardeau de ta paresse, ta tête d'enfant se balance avec la mollesse d'un jeune éléphant. Et ton corps se penche et s'allonge comme un fin vaisseau qui roule bord sur bord et plonge ses vergues dans l'eau. Comme un flot grossi par la fonte des glaciers grondants, quand l'eau de ta bouche remonte au bord de tes dents, je crois boire un vin de bohème, amer et vainqueur, un ciel liquide qui parsème d'étoiles mon cœur.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Après le moment musical, nous continuons quelques extraits de l'œuvre de Jean-Claude Pirotte. Il est minuit depuis toujours. Le caillou. De tous mes voyages, qu'ai-je ramené ? Quelques croquis hâtivement jetés sur le papier. Un petit carnet jauni dont aucune page, à vrai dire, n'est achevée, pas même la mélodie d'une chanson, le portrait ébauché d'une jeune fille aux traits méconnaissables, deux ou trois souvenirs futiles, un caillou rond, d'un gris poussiéreux retrouvé au fond d'une poche et qui, lorsque je le serre fort dans ma paume, tiédit, s'échauffe et paraît fondre lentement, se réduire. Alors que je me surprends à redouter que ma main, si je l'ouvre, se révèle vide, et je l'ouvre en tressaillant, le caillou s'est amenuisé, on dirait que le grain de la pierre, en s'effritant, a creusé dans la chair trop tendre de ma paume des trous à peine visibles, annonciateurs d'une lèpre subtile, peut-être mortelle. Je ne puis, cependant, m'empêcher, certaines nuits, de quitter mon lit où le soleil se refuse à me visiter, de courir vers mon secrétaire, d'ouvrir le tiroir où je serre mes reliques et de saisir le caillou ténébreux que j'enferme sous mes doigts repliés jusqu'à ce que la brûlure me force à relâcher l'étreinte. Je contemple longtemps ma main blanche piquée de minuscules cavernes. Je la regarde avec un étonnement indicible, une espèce de révolte aussi que ton père ait fini par étouffer, la brume montant en moi d'une résignation née du fond des âges. Les oiseaux. Par exemple, je ne suis guère capable de décrire les contrées que j'ai visitées. Je n'ai rien vu, rien deviné. Je regardais pourtant, mais mes regards, malgré moi, ne cherchaient qu'à saisir l'invisible. Et les pays parcourus défilaient, ne me laissant qu'une impression d'immobilité. Ne vous y trompez pas, les rares descriptions que j'en fis me furent moins inspirées par le spectacle de la réalité que dictées par je ne sais quel tyran intérieur qui s'appliquait à m'imposer les tâches les plus absurdes. Un besoin de justifier d'inutiles errances aussi. Une vieille manie de plumitif, car je reconnais que mes premières pérégrinations n'étaient pas exemptes d'arrière-pensées vénales, ni mes premiers départs de motifs routiniers. Aujourd'hui, je suis définitivement de retour. Ce soir que j'entreprends, comme hier, comme chaque soir, d'écrire ce que je sais ne jamais pouvoir écrire. Récit sans cesse raturé, où à l'instant d'exprimer l'essentiel, ma plume se rebiffe, ma pensée se cabre, le langage m'échappe, où j'assiste impuissant à la substitution des phrases à la parole. Ce soir, enfermé dans mon bureau, la pluie battant les vitres noires de nuit, je suis encore et toujours en quête des mots-clés dont certes je connais le nombre, la forme et la couleur, mais dont je ne puis rétablir l'ordre. Quelle volonté douloureuse me contraint à m'appliquer à la confection d'un texte impossible, à la relation de ce qui ne se raconte pas, quand les forces de mon esprit de jour en jour m'abandonnent. Et j'élève étage par étage ce château de cartes. Seulement pour qu'il s'effondre, non. Ce soir, je détiens la formule. Chaque soir, je la tiens. Chaque soir, je l'étreins. Chaque soir, je vais la prononcer. Elle affleure. Elle va prendre corps. Elle va s'inscrire ici, se graver, se prêter, se donner. Mais je tremble. Je tremble trop. Je n'arrive pas. Non. Tout m'échappe. Et le silence, un instant menacé, suspendu, reprend possession des lieux et de ma vie obscure. Pourtant, ce soir, j'en jurerai, j'avais saisi le premier mot, le premier signe. Mais brusquement, deux inexplicables oiseaux, dans la pièce hermétiquement close, deux oiseaux se sont mis à voler, se heurtant aux murs, aux vitres, aux meubles, aux rangées de livres. Et repensant à la chose, maintenant que je la rapporte, à cette présence absurde, je m'étonne de ne pas les avoir entendus crier, ni même battre des ailes. Il régnait un silence absolu, mais d'où venait-il ? Aucun accès possible du dehors. D'où venait-il donc ? Deux oiseaux, cherchant une issue, m'ont forcé à ouvrir la fenêtre par laquelle ils se sont enfuis dans la nuit. Et j'ignorerai toujours ce qu'ils ont emporté, ce qu'ils m'ont dérobé à moi, qui croyais ne rien posséder. Mais de quel secret ignoré de moi-même pouvais-je être détenteur ? À moi, qui suis dépossédé maintenant, je n'en puis plus douter. Un soir comme les autres. Sous un portique d'ardoise viennent rêver des bergers sans troupeau. On accède à la grande demeure par une allée ombragée où des jeunes filles le soir se promènent en liant des bouquets pour les époux qui n'apparaîtront pas. C'est moi qui leur suis apparu sous les draperies lourdes d'un crépuscule jaunâtre, et comme elles ne m'attendaient pas, elles se sont enfuies avec des petits rires que j'ai encore dans la tête. « Nous ne voulons pas être heureuses » criait-elle. « Nous ne voulons pas être heureuses !» Bientôt, elles se réunirent dans le salon ovale, se dévêtirent avec des grâces naïves et dansèrent nues et pâles sous les regards absents des vieillards qui ne cessaient pas de s'entretenir à mi-voix. Je réussis à me glisser dans la demeure. Lorsque j'ouvris la porte du salon, les jeunes filles, très lasses et peut-être confuses, s'étendaient sur les sofas. Les vieillards me firent signe. Ils m'attirèrent dans l'ombre afin de me poser de nombreuses questions. Ils ponctuaient mes réponses de crachotements et de gloussements destinés à exprimer l'éveil d'une tremblante allégresse. Nous convînmes de nous rendre dans la partie la plus parfumée du jardin et d'y attendre la nuit. Là coule un ruisseau chevelu, ondoyant et blême, dont la voix chante comme celle d'un enfant qui rêve. Les jeunes filles, je crois, s'étaient endormies. Et nous, Nous demeurions là, attentifs au langage informe de l'eau, environnée de masses sombres et brûlant d'une incompréhensible espérance. Souvenir de l'Angre. On voyait des dames se déshabiller au bord des rivières. C'était un pays tiède, ombragé de sycomores. Nous nous dirigeâmes à travers des forêts bleues et des campagnes arides vers l'ouest. Et nous parvînmes en vue d'une ville ardoise et ocre piquée de tours et de clochers. On nous dit que c'était l'Angre. Nous avions en effet traversé la comté. Nous nous assîmes à la terrasse d'une auberge blanche en plein soleil, pendant que passaient revenant des marchés de grandes paysannes demi-nues coiffées abondamment de fruits rouges. Elles se retournaient sur nous d'un mouvement souple des hanches et leurs poitrines roulaient dans la lumière. À leur suite trottaient des ânes chargés d'étoffes colorées. À midi, nous reprîmes le chemin de la ville. La porte orientale qui s'ouvrait devant nous était gardée par 7 femmes et 7 hommes nus qui nous saluèrent ensuite nous dévêtirent avec beaucoup d'égard. Nous nous prêtâmes de bonne grâce à cette formalité, après quoi la plus fraîche des gardiennes posa sa main gauche sur mon sexe et le plus jeune gardien baisa les lèvres de ma compagne. Nous pûmes alors entrer dans la ville. Elle était étagée en amphithéâtre. Nous empruntâmes de multiples escaliers aux marches inondées de soleil et néanmoins à peine tièdes sous nos pas. Les habitants se promenaient nus en troupes souriantes et muettes. Bien qu'il fît une vive chaleur, l'air nous semblait d'une exquise légèreté. Nous allions toujours par des rues en pente, alternant avec des degrés, et nous débouchions à chaque palier sur des places lumineuses où scintillaient des étals de fruits et de fleurs. Les passants nous adressaient des signes d'amitié. Des jeunes gens se détachaient de la foule et s'approchaient de nous, les mains pleine de baies rouges qu'ils accrochaient à nos cheveux. Peu avant le crépuscule, nous atteignîmes le plus haut quartier. Des édifices aux murailles bleutées s'y dressaient, entourés de pelouses calmes et de parterres fleuris. Il y avait là des arbustes portant des grappes de baies pareilles à celles qui ornaient notre front. Toutes les rues convergeaient vers cette large avenue, où se croisaient gravement, sans échanger une parole, des groupes harmonieux de garçons et de filles. Un parapet de pierre pâle, de faible hauteur, crénelé comme un mur d'enceinte, protégeait la promenade sur toute sa longueur. C'était bien la limite de la ville. Au-delà de cette frontière, rien que le ciel. Un azur parfait. Nous nous penchâmes au créneau. Notre regard se perdait dans un gouffre d'azur. Partout, le ciel. Nous demeurâmes longtemps accoudés au parapet. Une à une, les baies de notre coiffure se détachèrent. Un vertige nous gagnait à suivre des yeux leur chute interminable. Nous nous sommes arrachés à la fascination, nous avons quitté le mystérieux sommet, nous sommes redescendus par les ruelles et les escaliers vers la porte où veillaient encore les gardiens et les gardiennes nus. Ils nous drapèrent silencieusement d'étoffes transparentes. Et chacun d'eux nous étreignit un instant. Nous sommes sortis de la ville. Et nous avons poursuivi notre voyage. Voilà, nous avons terminé pour ce soir donc quelques extraits de cette œuvre de Jean-Claude Pirotte, Il est minuit depuis toujours. Nous nous retrouverons demain pour une suite de balades poétiques. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.